C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily.
Yes.
Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de baston et pour m'accompagner, je suis avec mon consultant sportif Adjan Chelil. Salut Adjan.
Salut à tous, bienvenue dans la nouvelle émission sportive de RMC Infosport. Non, je rigole, on est toujours sur le Super Daily et on va parler ce matin, bien sûr, MMA, Mixed Martial Arts. On va raconter un petit peu ce que c'est déjà le MMA pour les novices et puis après on va essayer de comprendre quelle stratégie de communication les différents acteurs autour de ce sport ont mis en place, notamment sur les réseaux sociaux, pour pouvoir
s'imposer,
voilà, percer, parce qu'aujourd'hui t'as raison, tu t'en as parlé un peu avant sur Twitch, parce qu'on est tous les matins sur Twitch à partir de 9h. T'en as parlé avant, on n'entend plus trop parler, le judo, qui est le premier sport en France la première art martiale, je dirais, en France en nombre de licenciés, je crois. On n'entend plus parler. La boxe, qui manque un peu de grosses stars, à part Tyson Fury dans les poids lourds, on en entend moins parler. Et le sport vraiment que tous les gamins veulent faire, parce que c'est ce qui marche le plus en ce moment, c'est le MMA.
Ouais, depuis 2021, les recherches sur YouTube en France autour des sujets MMA ont pris le dessus sur les thématiques liées à la boxe. C'est pas rien. Je vous mets un lien direct vers Google Trends pour que vous alliez voir et puis que vous-même vous puissiez faire vos petites recherches. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que depuis 2021, ça y est, le MMA a pris le dessus réellement sur la recherche en contenu des Français, puisque là, il s'agit de la France, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, notamment en Amérique du Sud. Ça fait déjà longtemps que c'est le cas. Et en France, ça y est, la déferlante MMA est énorme. Je trouve ce sujet passionnant. Peut-être qu'on peut rappeler, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que sont les Mixed Martial Arts.
Les arts martiaux mixtes, en fait, anciennement appelés, vous en avez peut-être entendu parler pour les anciens, combat libre ou free fight, on se rappelle de Jérôme Le Banner, par exemple, qui participait à ce type de compétition tard la nuit sur des chaînes obscures du câble.
Qui continue, il a fait son dernier combat il y a 15
jours. Pour le fun quand même. Après, attention, Jérôme, je vais pas te manquer d'aspect. il existe en gros différentes fédérations dans le MMA, mais globalement, c'est un mélange de plusieurs arts martiaux avec des coups de pied, des coups de genoux, des coups de coude, des techniques de corps à corps avec de la lutte, du jiu-jitsu brésilien et puis aussi des percussions au sol. Donc, c'est très impressionnant, ça se pratique dans une cage à la différence d'un ring par exemple pour la boxe, avec des gants beaucoup plus légers parce qu'il faut pouvoir attraper son adversaire. Du coup, ça donne des choses très très impressionnantes. C'est un sport qui est très récent et qui est composé en fait de plein de disciplines assez ancestrales. Aujourd'hui, le MMA, il s'organise surtout autour d'une ligue privée qui domine un peu tout le reste, même s'il y a d'autres ligues qui montent aussi derrière. C'est l'UFC, Ultimate Fighting Championship. On va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est cette fédération-là qui organise aujourd'hui globalement le top niveau du MMA mondial. La première rencontre de UFC, elle a eu lieu le 12 novembre 93 à Denver. Donc c'est quand même, tu vois, ça fait bientôt 30 ans que ça existe. C'est pas non plus quelque chose qui est né en 2020. Ça a tout de suite connu un succès quand même assez retentissant aux États-Unis. Au départ, c'est un sport qui a traîné aussi une mauvaise réputation. Parce que c'est un sport.
Ça ressemblait plus à des freak shows un peu.
Et puis
il y avait vraiment ce truc, je te mets un sumo face à un karatéka.
Exactement.
Qu'est-ce que ça donne ?
Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de limite de poids, il n'y avait pas de limite de temps. Donc en fait, c'était, on met juste deux gars dans une cage.
Pas de règles et puis on voit ce que ça donne.
Et le dernier qui sort vivant presque. Donc c'était assez choquant. Ils ont encadré un petit peu plus les choses. Aujourd'hui, ça a encore une mauvaise image à travers le monde parfois dans certains pays parce que c'est vraiment visuellement plus violent parfois que la boxe ou d'autres sports. Mais le MMA s'est développé notamment grâce à sa stratégie digitale et c'est ça aujourd'hui qu'on a envie de voir. Et notamment le pay-per-view, on en parlera peut-être un peu plus après. C'est eux qui ont été les premiers un peu à lancer ça, où tu peux suivre des shows depuis chez toi en juste payant ta connexion à une plateforme de streaming qui te donne accès au combat.
Oui, alors l'UFC existe depuis 93, ça tu l'as très bien dit. Le MMA en lui-même, qui est la discipline, souvent il y a confusion, UFC et MMA, c'est pas la
fédération,
même chose.
L'UFC,
c'est
qui gère
la fédé, existe depuis maintenant plus de 30 ans. Mais en France, ça a été très très long. C'était un petit peu, alors nous, ça c'est un truc très français,
c'est un long processus de reconnaissance.
Jeunesse et Sport a longtemps mis son veto sur cette pratique sportive, ce qui a fait qu'il n'y avait jusqu'à très récemment aucun club qui avait le droit d'enseigner le MMA, aucun combat officiel en France, etc.
C'était très 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 compliqué. En France, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres grosses fédérations de sports de combat qui n'étaient pas du tout chaudes de voir le MMA arriver. Hein. Le judo, par exemple, qui avait beaucoup de licenciés et qui freinait des deux pieds en se disant « en fait, tous les gamins qui viennent s'inscrire au judo habituellement, ils vont finir par aller au MMA. » Puis le MMA, c'est pas enseigné par les mêmes personnes qu'enseigne le judo. C'est plus dans les salles de boxe qu'on retrouve de la MMA en France en général. Donc du coup, il y avait pas mal de choses qui freinaient. Et puis le 3 septembre dernier, hein, on peut en parler parce que c'est un peu ça qui a déclenché, je pense aussi, l'idée de cet épisode. C'est que le 3 septembre dernier, il y a eu le premier événement de l'UFC en France, à Paris. C'était un événement énorme. Juste pour vous donner 2-3 chiffres déjà sur place, c'est 15 000 places qui ont été vendues en quelques minutes sur les réseaux sociaux. Attention, des places entre 83 et 1500 euros hein, quand même la place, donc une économie assez sympathique. Et puis à côté, il y avait 200 000 personnes qui étaient sur liste d'attente au cas où il y ait des places qui se libèrent. Si vous imaginez 200 000 personnes, c'est plus de deux fois le stade de France à Saint-Denis, hein, donc le plus grand stade en France. C'est quand même monstrueux. La notoriété, elle est aussi portée, on va en parler par la suite, par des stars comme Cyril Gane en France, ou on a aussi Francis Ngannou qui a été formé en France mais qui est camerounais. Et puis voilà.
Et puis surtout, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'il y a eu une reconnaissance officielle extrêmement tardive, 2020 seulement. Jeunesse et Sport, qui est donc le ministère en charge des sports en France,
a enfin accepté
de reconnaître cette discipline et de rattacher la pratique du MMA à la Fédération Française de Boxe.
Ah ouais, parce que je crois qu'en plus, il y a une période, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble qu'il y a une période, ils voulaient la rattacher à la Fédération des loisirs et je sais plus quoi, parce qu'ils voulaient pas organiser de combat, mais ils voulaient bien que les gens puissent pratiquer.
Comme le paintball un peu.
Voilà, c'est ça.
Voilà, donc effectivement, le MMA, eh bien, son histoire en France, c'est assez passionnant. Et pourtant, la France est étroitement liée à la pratique du MMA. C'est ça qui est rigolo. C'est que la France, c'est un territoire dédié d'une aux arts martiaux. On le sait, on a une grosse pratique historique là-dessus autour du judo, du karaté, etc. En France, hein, on a aussi de hauts boxeurs français qui ont longtemps fait des malheurs hein, sur la scène internationale. En plus de ça, la France, elle a une passion pour ses mixed martial arts avec une success story que je trouve passionnante qui est Venom, la marque Venom. En avril 2021, Venom, qui est donc une marque française, si vous ne le saviez pas, est devenue l'équipementier officiel de l'UFC, donc cette fameuse Fédération internationale du MMA, ce qui est quand même ouf. Hein. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'UFC, eh bien, tous les combattants utilisent l'équipementier officiel. C'est contractuel. T'as pas le droit de venir avec un short Nike ou un short Reebok ou un short d'une autre marque. Tu viens avec du Venom. Ce qui fait de Venom la marque de référence du MMA. Et je trouve ça passionnant parce que l'histoire de Venom, elle commence là aussi il y a longtemps, en 2004, avec un patron français, donc Franck Dupuis, qui est un ancien karatéka et qui a un bon sens des affaires visiblement, et qui décide de monter un premier site e-commerce qui s'appelle Dragon Bleu, qui existe toujours, qui devient très rapidement le site français de référence sur le sujet des sports de combat. Et il se trouve qu'il y a cette discipline du MMA qui est émergente et qui pour autant en France n'est pas reconnue. Et il a cette idée... Franck Dupuis de monter une marque qui s'appelle Venom, une marque qui va historiquement rattacher au Brésil. C'est-à-dire, il ne va pas dire que la marque elle est française, il va dire que c'est une marque brésilienne. Et il va développer toute une icono autour de cette marque. Vous connaissez peut-être ce logo en forme de cobra.
Sachant peut-être que pour expliquer, il y a un des sports dans le MMA qui est le jiu-jitsu brésilien et que du coup, il y a une grosse école de personnalités qui arrivent au MMA par le jiu-jitsu brésilien. Je pense que c'est là-dessus qu'il a voulu
surfer.
Mais oui,
parce que pour les amateurs éventuellement pratiquants en sous-marin du MMA en France à l'époque, le MMA, c'est quasiment exotique. Et c'est un truc qui est très inspiré du jiu-jitsu brésilien. Donc il décide de monter cette marque Venom qui fait produire au Brésil, qui est une marque donc française, mais à qui il donne une grosse identité brésilienne. Et puis il explique, je suis tombé sur une interview dans laquelle il explique, quand vous vendez du champagne, il vaut mieux dire qu'il est français que chinois. Et le MMA, dans les années 2000, c'est un peu la même chose.
Vaut mieux
dire qu'il est brésilien que français. Et en 15 ans, la marque, elle s'est littéralement imposée hein, très largement sur l'intégralité des sports de combat. Aujourd'hui, c'est la marque leader sur le sujet du MMA. C'est français. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour cette marque, c'est impressionnant, avec une volonté très forte maintenant d'aller sur le lifestyle, hein, donc des choses beaucoup moins pour les pratiquants. Et juste quand même pour resituer la marque, sur Instagram, 1 million de followers qui suivent Venom. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil à leur contenu, ça reste très brand centrique. J'ai pas vu de choses très extraordinaires, on va dire, en matière de contenu de marque, mais ça donne quand même une notion de comment la France est un petit pays majeur au milieu de cette dynamique MMA.
Ouais, puis il faut se rendre compte que effectivement ce que tu décris là, la Venom, une marque qui est partout, qui est développée tout autour du MMA, tout autour de l'UFC, qu'on voit de partout, donc c'est une vraie réussite business. Tu parlais donc de l'UFC, moi je vais rentrer plus en détail sur cette ligue internationale qui gère effectivement le MMA mondial, parce que c'est aussi grâce à l'UFC que le MMA a connu cette notoriété de partout. Et du coup, en regardant un petit peu plus près ce qu'ils font, il y a des choses intéressantes en niveau communication. C'est 28 millions d'abonnés sur Instagram, la même chose sur Facebook, et plus de 4 milliards de vues sur YouTube, hein, l'UFC. C'est quand même un mastodonte, hein, sur les réseaux sociaux. Et il y a deux axes de communication qui sont assez intéressants développés autour de l'UFC. C'est le personal branding et le storytelling. C'est-à-dire qu'eux, ils ont compris. Ils ont dit, il faut que notre sport, il faut que notre fédération, elle soit incarnée par des personnes déjà. Et du coup, la première personne que l'UFC a choisie pour incarner tout simplement son organisation.
Et bah
c'est le boss, c'est Dana White. Dana White, si vous suivez un peu l'UFC, vous en avez forcément entendu parler. C'est l'homme que tout le monde aime détester. Vous avez forcément entendu des combattants l'interpeller à la fin d'un combat pour lui dire, maintenant il faut que tu me donnes les meilleurs combats.
Est-ce que c'est pas un peu Fred Musa chez Skyrock?
Ouais,
est-ce que c'est pas
Laurent Bonneau,
est-ce que c'est pas Elon Musk sur Twitter? Personnalité un peu clivante.
C'est un peu ça. En tout cas, eux, peut-être à l'image aussi, tout simplement, Steve Jobs était beaucoup moins clivant, mais à l'image de quelqu'un qui vraiment incarne la marque auprès du public, c'est Dana White qui incarne cette marque. C'est lui qui anime les points presse la veille des matchs. C'est lui qui est en vidéo la veille des matchs, du coup, parce qu'il y a les points presse, etc., sur les réseaux sociaux d'Instagram. Et ils ont vraiment travaillé son personal branding à lui. Lui, sur Instagram, c'est 6,6 millions de fans, hein, Dana White, pour un président d'une ligue.
De fédé,
c'est quand même pas...
Ouais, combien fait le Gret sur la Fédération Française de Foot, je pense que c'est moins.
Et du coup, 6,6 millions de fans sur Instagram, c'est plus que beaucoup de combattants de MMA, hein, donc pour qu'on se rende compte. Et puis à côté, il y a tous les champions de MMA. Ça, on va en parler plus en détail après, où ils se sont dit, on va prendre des stars, on va prendre des combattants et on veut en faire des stars, on veut les mettre en avant. Il y a des Conor McGregor, etc. On va détailler ça par la suite. Après, il y a la partie storytelling. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que parfois, ça devient même risible tellement l'UFC cherche à mettre du storytelling dans toutes les soirées qu'ils organisent. Et ça se ressent déjà dans quelque chose, c'est que comme c'est une ligue privée, c'est comme un peu à la boxe, choisir qui combat qui, c'est la ligue qui décide.
Bien sûr.
Donc en fait, il n'y a pas comme dans le foot ou ailleurs des matchs, 8e de finale, quart de finale, non, ça n'existe pas.
Et un combat, c'est une histoire.
C'est ça, exactement. Et en fait, les personnes qui vont gérer à l'UFC qui va combattre contre qui, les choix des rencontres, ils vont mettre autant en avant quelle histoire on peut raconter autour de ce combat autant que l'intérêt sportif même du combat. C'est-à-dire que si par exemple t'as deux anciens partenaires d'entraînement qui ont des petits griffes l'un contre l'autre, qui sont un peu tendus l'un avec l'autre, tu peux être sûr que l'UFC va en faire un combat à un moment donné.
Mais surtout l'UFC va même travailler un storytelling dans cette direction.
Exactement.
On va accentuer les griefs entre athlètes, etc. Il y a une grosse mise en scène
on retrouve encore très régulièrement le vieux combat États-Unis-Russie, hein. Il y a très très souvent ce côté-là à opposer les anglo-saxons ou les américains avec des combattants de l'Est, des pays de l'Est européens ou de la Russie. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé aussi par l'UFC. Et on remarque vraiment cette mise en avant du storytelling, c'est que avant chaque événement de l'UFC, une semaine avant l'événement, vous avez une vidéo qui s'appelle Countdown qui sort sur YouTube et qui reprend toute l'histoire de chaque combattant qui va combattre le samedi. Donc là, vous avez une espèce de mini-doc qui parle de son enfance, de son arrivée dans le MMA, de ses derniers combats d'UFC et qui te raconte toute une histoire autour de chaque combat.
Mais ça, c'est vraiment la recette de l'UFC. Et ce qui fait aujourd'hui le succès du MMA, c'est effectivement des personal branding très forts, fort jusqu'au patron de la ligue, mais après chaque athlète est vraiment travaillé. Tu sens que quand ils arrivent, je vais donner un, ben, on peut parler de Cyril Gane, bon gamin, tu vois, ils ont des surnoms, ils ont été travaillés, leur personnalité, elles ont été sculptées. On peut parler de Benoît Saint-Denis, pareil,
l'époque, alors.
Combattant
québécois,
combattant québécois qui a été sculpté. On peut parler de Saint-Pierre, le français, ancien militaire. Ils vont à chaque fois travailler la personnalité de façon très très habile pour ensuite raconter une histoire. En fait, c'est plus qu'un combat, c'est une histoire avec un climax qui est sur le ring.
T'as raison, et tout simplement pourquoi ? Parce que le MMA comme la boxe, c'est géré par des ligues privées. Donc des ligues qui, eux, leur seul intérêt, c'est de monter des événements qui vont leur rapporter de l'argent avec une rencontre et des spectateurs qui payent assez cher pour être là. Et puis des droits télé qui vont aller revendre souvent sur Internet, comme on l'a dit, avec le pay-per-view plutôt que sur des chaînes de télévision classiques. Donc eux, c'est pour ça que souvent c'est un peu des milieux assez chelous, parce que l'intérêt sportif, il n'est pas toujours au rendez-vous. On parle d'un sport, mais en fait, c'est plus l'art du spectacle. C'est comment on monte un show, en fait.
Avec une grosse différence entre la boxe et le MMA, c'est que la boxe, tu as 5, 6, 10 ligues différentes avec tous leurs champions du monde.
Attention, parce que le MMA n'est pas très loin de ça. On a le Bellator, qui est une deuxième fédération privée. Alors, la différence, comme tu as raison avec la boxe, c'est que l'UFC est largement devant tout le monde.
Et puis, surtout, les athlètes ont des contrats exclusifs avec la ligue.
Oui, ils ne peuvent pas aller se battre.
Ailleurs, ce qui n'est pas le cas des boxeurs qui passent d'une ligue à l'autre, donc c'est très difficile
de réunir les ceintures de toutes les ligues,
et du coup c'est très difficile d'avoir une fanbase en lecture. Comment tu suis tel athlète parce qu'il passe d'une ligue à l'autre, etc. Je trouve que ce qu'on crée l'UFC avec le MMA, finalement, ce sont des combats de gladiateurs. Les Romains, ils faisaient exactement j'ai une ligue, c'est mes combats de gladiateurs, j'ai mes athlètes qui peuvent se battre exclusivement dans mes arènes, je travaille des gros storytelling, ce qui est exactement le cas des combats de gladiateurs. Donc finalement, il n'y a pas grand chose de nouveau.
Parlons de la plus grosse star, hein, peut-être Conor McGregor, The Notorious, c'est comme ça qu'il s'est surnommé. 40 millions d'abonnés sur Instagram quand même, hein, c'est énorme, c'est quasiment la France entière, plus de 15 millions d'abonnés sur Facebook, 9 sur Twitter. C'est même un des sports les plus suivis, hein. Je crois qu'il est dans le top 5 des sportifs les plus suivis, donc c'est assez fou. Aujourd'hui, même si lui, il est un peu en retrait, il n'a pas combattu depuis longtemps à l'UFC, etc., bah, il continue d'animer ses réseaux sociaux et il continue d'être très présent. Et puis là, on voit bien aussi chez Conor McGregor toute la stratégie de clivage, hein. On a déjà parlé plusieurs fois en décryptant des stratégies de différentes personnalités ici. Conor McGregor, il se passe toujours des choses avant chaque combat. Insulte quelqu'un, il faut qu'il soit en conflit avec Dana White ou alors avec le combattant qui est en face de lui. Et en fait,
grosse capacité d'acteur aussi,
c'est ça, gros acteur. Exactement, c'est un très 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 gros acteur. Il croit pas une seule chose de ce qu'il est en train de raconter quand il va faire la pesée mais il sait que c'est ça qu'il faut faire pour faire le buzz, pour qu'on parle de lui et pour qu'on lui donne des meilleurs contrats.
Et ces personnalités exceptionnelles qui ont travaillé dans l'UFC, ben elles font aussi les choux gras des médias, évidemment. Et je pense à un média 100% social media dédié au MMA qui s'appelle La Sueur. Tu connais peut-être, Adjan. Et La Sueur, je trouve très très cool à suivre ce compte. Regardez ce qu'ils ont fait. C'est trois personnes qui viennent d'Angers, les trois petits gars qui viennent d'Angers qui cartonnent. Hein. Ils sont partout. Ils sont sur
Twitter,
TikTok, ils sont sur YouTube, sur Instagram et même en podcast, avec un très bon podcast qui s'appelle La Sueur. La Sueur, c'est donc un média 100% français qui est focus sur les sports de combat et notamment, évidemment, avec une grosse dynamique autour du MMA, où il plonge justement dans cette storytelling, il les raconte, il tire la bobine que lui donne l'UFC. Derrière ce média, il y a un jeune homme qui s'appelle Guillaume Dussault, qui est le fondateur de ce média, et je trouve très intéressant. 1,8 million de vues par mois sur YouTube, hein, c'est faramineux. 5 millions de visites sur un site web chaque mois, c'est vraiment impressionnant pour ce média. Et ce qui m'impressionne le plus, allez jeter un petit coup d'œil à leurs comptes réseaux sociaux, ils produisent énormément de contenu. C'est surréaliste. S'il y avait une vidéo à regarder, une que je vous conseille, je vous mets le lien en note de cet épisode, c'est une vidéo, un documentaire, hein, de 50 minutes dans lequel l'équipe suit Cyril Gane à Las Vegas en préparation de son premier combat à l'UFC.
C'est super. Tu le vois avec son entraîneur en train de s'entraîner dans l'hôtel.
Vachement intéressant. Tu comprends beaucoup aussi de ce qui se passe dans
la vie déjà d'un mec qui fait ça.
Dans la vie d'un athlète. Vraiment cool. Allez suivre ce contenu.
Puisque tu parles médias, petit dernier mot sur une chaîne YouTube aussi qui cartonne, hein, autour du qui est autour du MMA, mais pas que, c'est Karaté Bushido.
Bien sûr.
Avec
le bon vieux Greg MMA. MMA,
Grégory Bushlagem qui effectivement anime beaucoup cette chaîne. C'est incarné, il y a différentes personnalités, mais lui c'est un peu la personnalité phare.
Justement, c'est un des premiers combattants du MMA, hein,
exactement, exactement. Il est c'est un des plus vieux français, je pense, qui a participé à des compétitions de MMA. Et là, il vous emmène façon blog à la découverte de plein d'autres combattants en France, voire un peu plus large en Europe, et avec la découverte de différents arts martiaux. C'est très ludique, c'est très vulgarisation aussi, ouais, pour le grand public.
Très généreux aussi. On est sur des formats qui durent une heure, 1h15.
C'est ça. C'est 713 000 abonnés et c'est des vidéos qui dépassent le million de vues. Hein. En cumulé, c'est déjà 180 millions de vues pour la chaîne Karaté Bushido. Et on sent bien qu'il y a un engouement depuis quelques années qui monte autour de ce média-là, alors que Karaté Bushido, je veux pas dire de bêtises, je me suis pas renseigné, mais je crois que c'est un média qui est assez vieux et qui a
ça existe depuis très longtemps.
Voilà, qui existe depuis
D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit big up à mon sensei de karaté, voilà, Damien Dovi, si tu écoutes cet épisode, qui lui est aussi, puisque je dis ça parce que dans son dojo, il y a des vieux karaté bushido,
ouais, de l'époque
voilà, où il est à la une. Donc oui, ça date d'il y a un moment. Pour finir, on pourrait peut-être parler quand même de Cyril Gane, hein, bon gamin.
C'est vrai, on en a
c'est
pas
vraiment
trop parlé,
cette personnalité
temps, mais...
médiatique qui s'est installée en France.
C'est le boss.
En 3 ans, ce mec, on l'a vu partout.
Bah, et il a développé justement toute une image. Hein. On parlait de Bon Gamin. Bon Gamin, c'est un collectif aussi de rappeurs et tout, qui sont, avec qui il est ami. Et lui, il est toujours Bon Gamin, souriant, sympa. Pas du tout l'image
c'est
de la grosse
brute. C'est son personal branding.
Voilà, pas le personnage de la... Justement, c'est ça qui est intéressant. Là, une fois de plus, il vient se positionner en clivage par rapport à tout le monde du MMA, qui est très violent, très dur. On s'insulte. Et lui, il est toujours souriant,
très friendly,
toujours détendu, toujours
pas dans
radical,
le clivage, pas dans le clash, etc.
Il est cool. Et il est invité. Lui-même, il le dit. Hein, le MMA, ça a changé de statut. Parce qu'avant, je faisais que des médias très spécifiques au combat, tu vois, Karaté Bushido, etc. Aujourd'hui, je passe sur Combini. J'ai des articles dans Le Monde. Je passe sur France 2, etc.
Et lui, 900 000, quasiment un million de followers
quasiment
sur Insta.
Un million de followers, c'est ça.
Donc assez énorme.
C'est
on vous met évidemment les liens vers tous
les,
ces contenus.
Si vous voulez
creuser un peu tout ça, allez jeter un petit coup d'œil aux notes de cet épisode. Voilà.
Ah voilà, c'était un épisode qui nous faisait plaisir à partager avec vous. Si vous avez des choses à nous raconter aussi autour du MMA, si vous adorez ça ou si vous trouvez ça beaucoup trop violent, venez en parler avec nous sur les réseaux sociaux, @supernatif, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. On est partout, TikTok aussi. Et puis si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast, laissez-nous une petite note 5 étoiles, un commentaire, ou même venez nous voir tous les matins sur Twitch.
Exactement, merci à vous tous, on vous embrasse, très bon week-end.
Allez,
salut
ciao,
tout le monde, ciao, bye bye.